Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
À 3 ans déjà, je me souviens, on était en train de déjeuner et il dit « Papa, c'est vrai que tu vas disparaître ?» Je pensais qu'il parlait de la mort. Donc je lui ai dit « Bah oui, comme tout le monde, mais pas tout de suite, enfin, ça va arriver plus tard. »
Ce n'est pas la bonne question.
Voilà, et c'est là que j'ai compris que c'était pas ça. Je dis « Comment ça ?» Oui, parce que maman m'a dit que pour l'instant j'avais 2 papas, mais qu'un jour j'en aurais plus qu'un et que tu vas disparaître. Je dis « Toi, tu as envie que je disparaisse ?» Il me dit « Bah non, j'en ai pas envie. Bah moi non plus, donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas. » Mais en même temps, chaque fois que je le vois, bah, je suis obligé d'en parler avec lui.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
Comment ça va ?
Ben ça va bien.
Merci de revenir à mon micro.
Oui, ça fait...
3 ans ?
3 ans déjà.
3 ans plus tard.
3 ans plus tard, oui.
Donc pour expliquer rapidement, mais t'étais venu, tu m'avais envoyé un mail, t'étais fini par venir à l'époque, on était dans
Exactement.
Les bureaux de Mademoiselle, où tu m'avais raconté ton histoire et... tu m'avais demandé de pas diffuser l'épisode et moi j'étais assez d'accord avec l'idée. T'étais en plein dans tes prises de tête juridiques, etc., dont on va parler. Et là, tu m'as renvoyé un mail en me disant « Coucou, je suis de retour ». Eh bien, écoute,
voilà, après plusieurs années de silence,
reviens donc.
Voilà.
Je vais vraiment réexpliquer très rapidement, mais en gros, t'étais venu me voir en me racontant que t'avais rencontré une femme avec qui t'avais fait un enfant, ou en tout cas, elle t'avait dit que c'était ton enfant, et quelques...
Donc, c'était un projet commun, hein.
Oui,
c'était voilà. Un projet commun, clairement.
T'es devenu papa.
Voilà, tout simplement.
Et quelques années plus tard, elle est venue te dire, en fait, c'est ton enfant, n'est pas de toi. Et puis, voire même, je vais te reprendre la paternité, quoi.
Voilà, après s'être séparé de moi.
Oui.
C'était pour lui, il avait 1 an. Au moment où on se sépare, je découvre qu'elle avait un amant et elle me dit, bah, cet homme, c'est le géniteur. Voilà.
Voilà. C'est pour vous.
Voilà, pour replacer le tableau.
Donc, effectivement, tu étais venu raconter ton histoire à mon micro et t'étais dans ton bourbier juridique à l'époque. Je sais pas trop où t'en es. D'ailleurs, tu m'as quasiment pas donné de nouvelles et je vais découvrir ça en même temps que vous. Je suis très chère auditrice, très chère auditeur. Mais voilà. Peut-être tu peux commencer par nous raconter comment t'as voulu devenir père, toi, en fait, à l'époque.
J'ai voulu devenir père parce que je sentais que c'était le moment. Tout simplement, c'est j'avais rencontré une personne avec qui je pensais que ça allait pouvoir fonctionner. On avait ce désir d'enfant qui était commun. C'était le bon moment pour elle, pour moi. Bon, bah, les choses viennent relativement naturellement. Après, est-ce que il y a pas de bonne raison pour faire un enfant? C'est juste qu'on en avait envie. Ouais. Voilà, tout simplement.
Non, c'est juste que j'ai des invités parfois qui viennent avec qui viennent raconter en fait qu'ils ont une envie d'enfant depuis qu'ils sont tout petits, quoi, tu vois, que ça leur...
Alors j'ai eu cette envie d'enfant n'a pas été j'ai pas toujours senti que c'était le moment. Voilà, j'ai déjà eu des relations durables avec des personnes qui prévoyaient d'avoir un enfant, qui en ont eu d'ailleurs depuis. Ouais. Pas avec moi, non, mais ouais. Parce que c'était pas le moment, tout ouais. Simplement. C'est une question de moment, voilà. Et j'ai senti que c'était le moment et je pensais que c'était la bonne personne, voilà.
Ok.
Et donc voilà.
Ok. Tu peux nous raconter comment t'as rencontré cette personne et comment t'as...
Les choses, donc j'étais en Afrique, les choses se sont faites assez rapidement. J'étais en Afrique de l'Ouest, elle était d'Afrique centrale. On s'est rencontrés là-bas, on s'est un peu fréquentés. Très rapidement, elle a eu des soucis de logement, donc au bout de 2 semaines, elle s'est retrouvée à vivre chez moi. Ce qui n'était pas forcément pour me déplaire, et on a vécu ensemble, on a beaucoup voyagé, on est beaucoup sortis, enfin bon voilà, on a fait beaucoup de choses très chouettes.
Okay.
Et avant de rentrer en France, quand moi j'ai fini mon temps là où j'étais, on s'est paxé pour qu'elle puisse venir et qu'on puisse continuer l'aventure en France, tout simplement.
D'accord.
D'une banalité relativement importante, quoi. C'était juste normal, enfin voilà.
Ok. Comment vient le projet d'enfant?
Il vient une fois qu'on était en France, de façon assez naturelle, là aussi, de façon assez normale. Cet enfant ne vient pas tout de suite. Il vient au bout d'une bonne année, en fait. Et relativement, je m'en suis aperçu dans la moyenne parisienne. Enfin, attendre 1 an pour avoir un enfant, voilà. À la suite d'une petite opération que j'ai dû faire en ambulatoire, qui a duré une petite matinée. Donc rien de grave, un petit souci mécanique. Mais
tu dis pas tout. Tu racontais dans la première interview.
Oui.
Enfin, j'aurais creusé de toute façon. Du
voilà,
moment où tu dis ça, j'aurais fait, mec.
Voilà. Non.
T'avais un problème de fertilité, en tout cas une petite
ouais,
déficience.
C'était une varice, en fait, ouais. Tout simplement une varice qui chauffait.
Ton testicule.
Voilà, c'est ça. Et il suffit tout simplement de ligaturer cette varice, et au bout de quelques jours, ça revient à la normale. Donc c'est vraiment, j'ai aucune cicatrice. Enfin, comme si de rien n'était, vraiment, je me suis aperçu, enfin, c'est l'opération, mais au bout de 3 jours, c'était fini.
Et quelques semaines après cette opération?
Quelques mois après, okay. elle me dit, viens vite, j'ai un truc à te dire, j'étais au travail. Je réplique, un peu énervé, en me disant qu'est-ce qui va se passer encore. Et elle me dit, tu vas être papa, avec un bouquet de fleurs, le test urinaire dans le bouquet. Je saute au plafond, je suis heureux, et puis voilà. Et puis les choses se déroulent les unes après les autres. Échographie, préparation à l'accouchement. On a repeint la chambre, on a acheté les meubles, on a acheté les vêtements. Enfin, les choses d'une banalité assez affligeante.
Tu le dis très vite, mais dans la première interview, tu racontais que t'étais vraiment à fond pendant la préparation de l'accouchement, la grossesse et tout. Quoi. T'étais vraiment en mode. Trop content d'être papa, quoi.
Ah oui. Pour moi, c'était. Alors, bien que mon propre père, enfin, j'ai pas eu de modèle. Mon père est toujours là. Je l'ai toujours connu. Il y a pas de souci. Mais il s'est jamais vraiment investi. Il vient d'une ancienne génération, donc il s'est jamais investi dans ce genre de choses. Et pour moi, c'était juste un bonheur de d'être là, d'être présent, de participer. Et c'est aussi comme ça que je conçois la parentalité, un investissement qui moi me semble pas exceptionnel, c'est juste normal. Enfin voilà, être présent, aider, faire sa part du boulot et puis c'est tout. Voilà.
Ta compagne accouche.
Elle accouche.
Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres cet enfant?
J'ai pleuré et j'ai ri en même temps. C'est très bizarre. J'ai pleuré et j'ai ri en même temps. J'ai pas pleuré de joie. J'ai pas ri de tristesse. C'est que j'ai vraiment eu les deux émotions en même temps. C'est extrêmement bizarre. Je riais, j'étais heureux et en même temps j'ai fondu en larmes. Et c'était très très bizarre. Alors peut-être que c'était un prélude.
Non, mais je crois que c'est
arrivé plus tard.
C'est des émotions, c'est des réactions physiologiques en fait que ton corps t'envoie et que tu peux pas gérer quoi.
C'est ça. Non, mais très clairement. C'était chouette, c'était des beaux moments, c'était Alors bon, pour elle, c'était pas évident. C'est un accouchement quand même, donc c'est normal. J'ai essayé d'un point de vue logistique, essayer les premiers jours comme je pouvais, faire le maximum. Des moments vraiment des moments de joie, des moments de joie, des moments de joie partagés. J'ai le souvenir où on était, on avait réussi à le laisser à une voisine, à laisser au bout de quelques mois une voisine pour aller prendre un verre, se faire un cinéma, sortir au moins une fois, voilà. Et je me souviens de nous en train de courir, de rentrer presque en courant par hâte de le retrouver et d'être avec lui, quoi. Mm-hmm. Et de passer un bon moment avec lui. Et voilà, ça n'a pas été forcément évident d'un point de vue logistique, mais en fait, c'est une banalité.
Oui, oui.
Enfin, voilà, quoi. Ça s'est juste super bien passé. On trouvait notre organisation. Elle était forcément très investie. Les premiers mois, ça se passait très très bien. Les week-ends étaient plus compliqués parce que, au bout de 6-8 mois, elle voulait reprendre son travail, notamment avec le producteur qu'elle avait rencontré. Et donc, moi qui travaillais, grosse journée, beaucoup de stress, les transports, 1h15, 1h30 de aller autant-retour, donc vraiment le soir très fatigué. Et le week-end, je le prenais en charge, puisqu'elle en profitait pour aller travailler. En tout cas, je pense. Elle travaillait aussi peut-être un peu. En tout cas, passer du temps avec son producteur.
Tu dis ça parce que
c'était son amant.
Spoiler, voilà.
Voilà, c'était son amant, exactement. Mais bon, le week-end, voilà, je passais le week-end presque seul avec lui en journée. Mais ça me dérangeait pas trop parce que c'était le moment où je pouvais être avec lui, m'occuper de lui, voilà. Et puis je voulais aussi qu'elle puisse travailler parce que c'est aussi ma conception du couple. Chacun met la main à la pâte, chacun fait à son niveau, et pour moi c'était important qu'elle puisse, en tant que femme qui venait d'accoucher, donc qui avait dû mettre entre parenthèses sa vie professionnelle, qu'elle puisse reprendre et qu'elle puisse reprendre le mieux possible. Enfin, pour moi, il n'y avait aucune contradiction.
Okay.
C'était à moi de prendre le relais dans la mesure de mes moyens. Et j'essayais de le faire au moins la totalité des week-ends. Hein, ouais.
Donc un an plus tard, c'est ça ?
Un an plus tard, un peu après l'anniversaire de son premier anniversaire, on était chez mes parents et bon là. Je prends son téléphone pour m'appeler parce que je retrouvais plus mon téléphone, coup classique. Et là, je tombe sur un SMS extrêmement clair de la part de son amant. Donc voilà, on essaie d'en parler. Je ne sens pas vraiment de regret de sa part, pas de remords. Moi, j'étais prêt. Enfin, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Si on veut s'accrocher, on peut s'accrocher. J'étais prêt aussi. Bon, voilà.
Oui.
Si ça avait été une fois, bon, bah, ça fait plaisir à personne, mais c'est des choses qui peuvent se vivre dans un couple, et puis un couple est censé être plus résistant que ça. Pour moi, c'est normal dans un couple qu'il y ait des hauts et des bas. Mais je sentais pas vraiment de remords de sa part.
Plus d'envie de changer, c'est ça, d'envie de...
Non, rien, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis quelques semaines après, elle me dit oui, la première fois où quoi, la première fois, je croyais qu'il y avait qu'une fois.
Et ah oui, fait, ok. Sûr, ouais.
Voilà, c'est ça. Et là, elle me dit non, il y a eu plusieurs fois. Et d'ailleurs, il faut que je te dise un truc. Voilà, tu es pas le géniteur du petit, c'est lui. Bon, d'accord. Donc.
Mais elle te le dit comme ça.
Oui, elle me le dit comme ça. On était en train de dîner. Elle me le dit comme ça. Bon. Lui venait d'être au courant aussi. Hein.
Ah, lui, il était pas au courant.
Ah non, lui, il n'était au courant de rien. Il n'était au courant de rien, absolument de rien.
D'accord.
C'était juste, il a été au courant en même temps que moi, une semaine près, enfin quasiment au même moment, mais il était au courant de rien. Sinon, il serait sûrement apparu à un moment ou un autre, il aurait...
Alors comment elle sait que c'est lui le géniteur ? Parce que j'imagine que vous aviez des relations sexuelles aussi.
Mais on avait des relations sexuelles aussi. Voilà.
C'est elle qui le dit.
C'est elle qui le dit. J'ai su après de la part d'une ex-amie à elle qui me l'a dit. Donc la mère lui avait dit que je n'étais pas le géniteur et que c'était un cadeau qu'elle voulait me faire. Oui, voilà. C'est bizarre, mais c'était un cadeau qu'elle voulait me faire.
C'est étonnant.
Oui, oui, voilà. C'est très étonnant. Faut pas oublier que...
un mensonge en cadeau.
Voilà. Alors non, non...
C'est pas un mensonge.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ce que j'en pense réellement, ouais. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a une part culturelle et une part individuelle, ouais, dans ses actes. Elle est d'Afrique centrale. Dans sa culture, elle l'a toujours dit, ça a toujours été clair, l'enfant appartient à la mère. Voilà. L'enfant appartient à la mère, le père est juste là pour mettre sa graine, s'occuper un peu, puis voilà. D'ailleurs, la vraie personne qui a traditionnellement l'autorité sur un enfant, c'est l'oncle maternel. Parce qu'il est sûr que c'est le fils de sa sœur. Donc il est sûr que c'est de sa lignée. Le père, il est là, il vient, il part, voilà. Et les familles recomposées, décomposées, recomposées, surcomposées, sont assez fréquentes là-bas. Donc pour elle, le père, c'est celui qui élève l'enfant. Et okay, voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc il y a ce volet culturel et il y a le volet individuel aussi qui fait que elle est... Alors, je suis désolé d'employer ces mots, mais elle est entre... Je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est du... Il y a une fêlure quelque part. Et je pense que c'est les deux. Voilà. C'est une... Oui, il y a de la manipulation, forcément. Et en même temps, il y a une véritable fêlure en elle qui fait que... Tu parlais de mensonge tout à l'heure ou de vérité. Pour elle, la vérité, c'est la vérité du moment. Et c'est ça qui est encore plus impressionnant, c'est que tout ce qu'elle dit, elle en est toujours persuadée. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et elle peut, mais très facilement, passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Et c'est très troublant. C'est vraiment très, très, très troublant.
Surtout quand tu fais un enfant avec, quoi. Je veux
voilà,
dire,
c'est ça, exactement.
Il y a un moment donné où c'est un lien qui est fait.
Voilà, c'est des choses qui sont posées. Mais pour elle, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Voilà. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a jamais voulu faire d'enfant avec moi.
Ah oui?
Oui. Et okay, elle l'écrit.
Oui.
Voilà, pour elle, c'est clair. Elle n'a jamais voulu faire d'enfant avec moi. Elle a toujours voulu faire un enfant avec lui. Mais jamais avec moi.
Ah oui. Faut toujours, je me dis, faut vraiment connaître les gens,
oui,
avant de faire des enfants.
Mais complètement. Est-ce qu'on les connaît vraiment toujours?
Non,
malheureusement, non. Moi, je pensais la connaître, mais en fait, non. Est-ce que
c'est surtout, je crois, c'est dans les épreuves en fait qu'on finit par rencontrer vraiment qui sont les gens, quoi.
C'est ça.
Et là, bah, pour le coup, c'était un peu tard. Vous avez connu, j'imagine, votre première épreuve quand c'était...
C'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, ça a été un petit peu... Ouais, ça a été forcément dur à avaler. Quand elle me l'a dit, je lui ai dit de... Bon, on était chez moi. Je lui ai dit, pars maintenant. J'arrivais plus à... Enfin, il faut digérer tout ça. On était en train de manger, elle m'a demandé de lâcher ma fourchette parce qu'elle avait quelque chose à m'annoncer, comme si j'allais poignarder notre enfant qui dormait à côté, quoi. Donc quand elle est partie...
Tu crois que c'était pour l'enfant qu'elle avait peur ou...
Oui, je pense que c'était pour l'enfant, ouais.
J'imaginais une scène de film, tu sais, où tu aurais planté la fourchette dans la main.
Okay. Ouais, non, je pense que c'était pour lui. Donc, une fois qu'elle est partie, je suis allé dans la chambre et je suis allé l'embrasser et embrasser notre enfant pour lui dire que je l'aimais, et puis c'est tout. Et puis, bon, forcément, c'est dur à avaler. Et
comment tu te sens, toi, j'avais déjà un mal fou à transposer ce que tu pouvais ressentir à l'époque, mais alors maintenant je crois encore plus. Comment ça se passe pour toi? De te dire, ok, en fait, cet enfant-là, dont j'imagine être le père depuis un an.
Dont je suis le père depuis 5 ans.
Oui, c'est ça, on va en parler. Non, mais le père biologique. Oui.
Donc, le géniteur.
Le géniteur.
Alors, c'est une vraie blessure narcissique, forcément. Voilà, parce que quand on voit son enfant, on aime se voir dans son enfant. Enfin, je veux dire, ça me semble clair. Ce point de vue-là, je l'ai senti comme un. Alors, je suis désolé de la comparaison. Je sais que c'est pas forcément facile à dire, mais
t'excuses pas de dire des trucs dans mon micro.
D'accord. Je l'ai ressenti personnellement comme un viol. Voilà, un viol de mon intimité, un viol de la chose la plus intime et la plus sacrée, qui est le lien avec mon fils. Voilà. Je l'ai senti comme un viol parce que il y a eu une pénétration dans mon intimité, parce que il y a eu de la honte, beaucoup de honte, parce que c'est pas très glorieux, hein. C'est pas glorieux de dire j'ai été cocu et puis mon fils, je suis pas le géniteur de mon fils. Hein. C'est pas quelque chose qui se dit facilement. Et j'ai mis du temps avant de l'accepter parce que les choses sont comme ça, mais de le digérer, ouais, c'est pas évident parce que c'est une blessure narcissique et parce que c'est de l'ordre du viol. Alors ce n'est pas posable, et ça, je comprends que ça puisse choquer certaines personnes, hommes ou femmes, qui ont eu à subir un viol physique, mais on n'est pas sur un viol physique, mais voilà, c'est un viol d'intimité, c'est un viol de quelque chose de très secret, de très pur, et voilà, de très très personnel et intime.
T'excuses pas d'avoir la sensation d'avoir été victime de viol, quoi, tu vois, c'est.
Oui, mais bon, voilà, je ne veux pas choquer personne, je veux ne faire de mal à personne. Donc voilà, il a fallu l'accepter, il a fallu le dire à la famille. Je l'ai dit à quelques proches.
Comment ta famille et tes proches réagissent ?
Alors, je l'ai d'abord dit à certains membres de ma famille, pas à tous, parce que j'avais besoin de le sortir. On a besoin de sortir ce genre de choses. Mais la plupart des membres de ma famille, je leur ai dit plus tard, quand j'arrivais à le penser. Voilà. Le plus dur, c'est d'arriver à le penser. On peut pas juste dire lâcher les choses comme ça et sans avoir de début, de commencement, de réponse ou de réaction. Voilà, il faut déjà réussir à le penser. Et mon intervention là de la dernière fois m'a beaucoup aidé là-dessus à le penser. J'ai vu quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé à le penser.
Quand tu dis quelqu'un,
un psy. Tout simplement, oui.
Quand tu dis
tout simplement, oui, parce que il faut, enfin voilà, on a besoin de.
Oui, j'allais. De toute façon, c'est une question que je t'aurais posée. Oui, d'une manière ou d'une autre.
Voilà, hein, qui est
suivi,
qui est quelqu'un qui est en plus spécialisé dans la parentalité, dans les enfants, qui est une personne qui m'a beaucoup aidé, avec qui j'ai des vraies conversations, qui me dit quand elle est d'accord ou quand elle est pas d'accord avec moi, et on papote et c'est très 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 bien. J'ai eu beaucoup de mal et puis j'ai réussi à me construire, faire une petite équipe entre guillemets, ouais, avec un bon psy qui m'a beaucoup beaucoup aidé, beaucoup rassuré, beaucoup, avec qui j'ai eu des conversations qui m'ont fait beaucoup de bien, réellement. Un médecin qui m'a permis de dormir. Voilà. Parce que je ne dormais plus. Enfin, pendant des mois et des mois, je dormais plus. Premièrement, parce que elle était vivait chez avec son nouveau copain et que notre enfant était à la maison et qu'il se réveillait très 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 souvent la nuit, jusqu'à 7-8 fois dans la nuit. Donc, je dormais plus.
C'est toi qui pendant ce temps-là gardais l'enfant.
Mmh, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Je le gardais. Elle venait le matin, elle venait le garder. L'après-midi, il était à l'halte garderie. Et le soir, je courais, voilà, je le récupérais. Je passais le soir avec lui et tout ça. Moi, je pouvais pas m'imaginer qu'il aille chez lui. Mmh. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose de pensable pour moi. Et comme il se réveillait très, très, très souvent la nuit, je dormais plus, et puis quand il était, voilà, c'était très très compliqué, et j'ai trouvé un médecin, je lui ai exposé la situation, elle m'a bien écouté, elle m'a donné des cachets qui m'ont permis de dormir, et quand on dort, ça change tout.
Oui, c'est...
Non mais, quand on a des vrais problèmes, on s'en rend pas compte, mais quand on a des vrais gros problèmes, dormir, c'est vraiment par là que ça commence, quoi. On peut pas, si on n'a pas bien dormi, on ne peut rien faire, absolument rien faire. Donc elle m'a permis de dormir, je me suis mis au sport, ça m'a fait beaucoup de bien, fixer des objectifs, voilà. Et puis une avocate, qui est très très bien. J'ai fait 5-6 avocats différents, et j'en ai trouvé une qui m'a bien convenu. Qui voilà, ça s'est très très bien passé et depuis elle m'accompagne, elle a fait beaucoup pour moi. Donc voilà.
Et pourquoi tu as eu besoin de te munir d'une avocate?
Parce que
jusque là, t'en
voilà.
Avais besoin.
Donc les 6 premiers mois, notre enfant dormait à la maison. Elle est partie en Afrique pour un tournage avec son producteur. Donc notre enfant est resté avec moi à Paris parce que pour moi il n'était pas imaginable qu'il parte. Il avait un peu plus d'un an, qu'il parte comme ça pendant un mois en Afrique, voilà. Bon, donc j'ai préféré le garder. Je m'en suis occupé. J'ai toujours veillé à ce que il puisse voir tous les jours faire des visios avec elle ou des vidéos si jamais sur les visios ça collait pas. Comme ça tous les jours il pouvait continuer à la voir et tout ça. Et quand elle est rentrée de son tournage, elle a voulu le voir. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais il y a une organisation. On va voir comment on peut se remettre ça en place. Mais voilà, elle n'a rien voulu entendre. Elle l'a récupéré pendant que j'étais au boulot. Et elle l'a gardé pendant une semaine. Voilà.
Sans te le dire.
Enfin, elle me l'a dit une fois qu'elle l'avait récupéré.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc le matin je pars au boulot et le soir je rentre, il est plus là et pendant une semaine plus aucune nouvelle. Je savais pas où elle était, hein, à l'époque. Je savais pas où elle vivait. Donc je savais que c'était sur Paris, mais où, quelle adresse. Elle me dit non, je le garde pendant une semaine. Donc un petit peu difficile à vivre.
Et elle t'avait quand même dit qu'elle le gardait pendant une semaine.
Oui.
Elle t'avait pas dit.
Non, elle m'a dit je le garde pendant une semaine. Okay. Voilà. Quelques semaines auparavant, avant de partir, elle m'avait quand même écrit tu es le meilleur papa du monde et je le pense vraiment. Voilà. Et je pense qu'à l'époque, elle le pensait. Voilà.
C'était sa vérité du moment.
C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'était sa vérité du moment. Ou est-ce qu'elle avait besoin de moi parce que c'était avant de partir pour son tournage? Est-ce que c'était sincère? Je le pense aussi. Bon, voilà. Et à son retour, donc, elle le garde pendant une semaine. Et elle est tout le temps en train de demander plus, de toujours vouloir, toujours remettre de l'huile sur le feu, de tout le temps. Et au bout de 2-3 semaines, après quelques semaines après son retour, elle m'envoie un mail, me dit « je compte le récupérer, récupérer la garde entière de petit, donc c'est pour ça que je lance une procédure de contestation de paternité ». Au début, je n'y croyais pas, je pensais que c'était juste... une façon de la rotomontade, juste une façon de me faire peur. Parce que forcément, moi, j'ai eu peur de ça. C'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'ai eu beaucoup de peur quand elle me l'a annoncé, si j'ai pleuré. J'aurais dû le dire parce que c'était une vraie peur que j'ai eue. elle avait la capacité de me l'enlever. Et cette peur-là, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pleuré. Quand je me suis retrouvé avec lui. Cette peur que nous soyons séparés. Voilà, lui et moi. Parce qu'elle en avait les moyens et que elle ne me donnait aucune garantie sur rien. Et donc finalement, elle m'envoie un message, me dit je vais le récupérer, je lance une procédure de contestation. Bon.
Mais attends, t'avais de l'émotion là qui était en train de monter. J'aimerais bien creuser un peu parce que non mais en vrai tu dis que t'as peur, mais qu'est-ce qui se passe derrière cette peur en fait? C'est que
quels sont les moyens juridiques de nous séparer?
Et donc que tu te retrouves toi sans ton fiston.
Sans mon fils, sans mon fils, qu'on me niait l'évidence. L'évidence, c'est le lien qui est entre nous. C'est quand on est ensemble, c'est évident. Je veux dire, personne ne se pose de questions. C'est clair, c'est comme ça. Et là, on me dit non, mais cette évidence-là, on te la refuse. Et je me suis retrouvé en fait enfermé. Dans une situation assez paradoxale où d'un côté il y a l'évidence qui est celle de mon rapport avec mon fils et les choses sont comme ça et puis c'est tout et on n'a pas besoin de les expliquer parce qu'elles sont là et en même temps le fait qu'on me dit ben non ça tu n'y as pas droit, c'est mal si tu le fais dans son discours bien sûr. Donc
c'est mal parce qu'en fait c'est pas toi le
c'est
géniteur.
Ça le géniteur.
T'as pas ce lien.
C'est ça. C'est ça. Sachant qu'en plus elle est d'Afrique centrale, donc j'aimerais qu'on m'explique la génétique là-bas. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens quoi. C'est bon, c'est comme ça. Elle-même ayant été donnée, confiée, élevée par la cousine de sa mère, etc. Celle qu'elle appelle papa, c'est pas son père, c'est le mari de sa cousine. Pourtant, elle l'appelle papa. Donc voilà.
Oui, donc c'est pas forcément automatique dans sa vie, en tout cas. Que,
non, pas du tout. Mais dans sa vie, au géniteur non plus. J'ai appris que le géniteur avait une fille adoptive. Et que lui-même, il me l'a écrit, a découvert que son père, à la mort de son père, il a découvert que c'était pas son géniteur.
Oui, donc il y a un.
Ah oui, oui, il y a, oui, oui,
il y a
oui,
un
oui.
truc.
Il y a un truc. Oui, il y a un truc. Il y a un truc. Donc.
Et toi, t'es au milieu de tout ça.
Mais moi, je suis au milieu de tout ça, essayer de m'en sortir dans ce film d'Almodovar où c'est tout est rien n'a de sens en fait, rien n'a de sens.
Donc elle te conteste sa paternité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui savent pas?
Ça veut dire que elle intente une action en justice, au civil, où elle dit que je ne suis pas le père, je suis faussement le père, et que donc on va remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il va être rayé de mon état civil, je vais être rayé du sien. Et puis on va inscrire le nom du géniteur comme le père. Et puis voilà, c'est ça que ça signifie. Et celui qui d'un point de vue légal était mon fils, d'un point de vue légal ne l'est plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça prend du temps, mais ça se fait. Voilà. Et là-dessus, la justice est implacable dans la mesure où si on n'est pas le géniteur, à moins d'avoir attendu un certain nombre d'années, eh bien, on peut se voir retirer la paternité comme ça. Voilà. Donc, et c'est automatique, hein, c'est systématique. J'ai vu beaucoup d'avocats qui m'ont tous dit la même chose. Tous. Ils m'ont tous dit la même chose. De toute façon, il y a même une avocate qui m'a dit « Est-ce que vous voulez continuer à voir votre fils ?» J'ai trouvé ça très difficile à entendre. J'ai vu une avocate spécialisée dans les droits des couples lesbiens pour défendre les droits de celle qui n'a pas accouché. ou de celle qui n'est pas la génitrice. Mmh. Enfin bon, dans ce genre de situation, il y a des femmes qui se font évincer.
Mmh, bien sûr.
Voilà, donc...
Ça fait partie des trucs dont on parle assez peu.
On en parle assez peu. Mais finalement, j'ai une situation assez similaire.
Ouais.
Et bon, voilà, je me suis retrouvé dans cette situation. Bon, l'avocate voulait aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui aurait confirmé le jugement dans tous les cas. Hein. Parce que c'est inscrit que les enfants doivent connaître leur vérité génétique, ce qui est vrai, c'est leur histoire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce que ça doit changer quelque chose dans le cœur d'un enfant? Je suis pas sûr.
Mm.
Donc, voilà. Et...
Quand on s'était vu, je crois, en 2019, t'étais en plein dans
toutes ces histoires-là.
Dans toutes ces histoires, c'était un peu complexe pour
toi. C'était complexe à penser. Et j'avais beaucoup de choses à gérer. Le petit au quotidien, parce que je continuais à l'époque à le voir beaucoup. Le boulot. Et puis toutes ces histoires, me reconstruire, et puis toutes les histoires, parce que trouver des avocats, monter les dossiers, etc. Et en même temps, les coûts en dessous de la ceinture. Voilà.
Ah, tu m'avais raconté que t'avais carrément fait un emprunt pour pouvoir payer les avocats. Mmh,
enfin, ouais, c'est ça. Endetté. Oui, je me suis endetté pour, parce que, alors, j'ai reçu, 6 mois après son mail, j'ai reçu une assignation en justice. Chez un huissier, que j'ai dû récupérer chez un huissier, qui m'a signé et qui m'accusait d'être faussement le père de mon fils, venant de la mère. Bon, voilà, ça a été une journée assez difficile. Ça a été une sale journée. C'est pas une belle journée.
Je sens un euphémisme.
c'était pas une belle journée.
C'était de la merde, hein, clairement.
C'est pas une belle journée. J'en ai eu d'autres comme ça, mais celle-là est... Voilà, parce que je savais que le mécanisme était enclenché et qu'une fois qu'il est enclenché, voilà. J'ai vu plusieurs avocates et l'avocate sur laquelle je a réussi à faire quelque chose de très très bien, déjà posé une convention de garde le temps que la procédure aboutisse. Voilà. Et ça a été une bouffée d'oxygène énorme parce qu'au moins dans le quotidien, il y avait quelque chose qui était acté. Voilà. Donc parce que j'étais même comme une bête traquée, parce qu'elle pouvait comme elle ne travaillait pas, enfin moi je travaillais loin de Paris, elle le récupérait en fait à la crèche avant moi. Donc c'était une course à l'échalote, je savais jamais si je pouvais pas passer ma journée en bas de chez la nounou, voilà. Mmh. Mais elle passait une heure avant, elle le récupérait, elle me dit non mais ce soir tu l'as pas. Puis elle me laissait de temps en temps, elle le reprenait de temps en temps, elle était régulièrement comme ça. Donc au moins cette convention a pu poser les choses, où je l'avais... une petite semaine sur deux, du mercredi au lundi.
Ok.
Une semaine sur deux, donc 5 jours sur 2 semaines, plus la moitié des vacances. Bon, j'aurais préféré une vraie semaine sur deux, mais c'était déjà pas mal. Oui, c'était déjà pas mal, sachant que tous les avocats me disaient, mais de toute façon, c'est perdu. Enfin, voilà, faut s'arrêter là, vous arrêtez. Non, mais vraiment, hein. Il y a plein. Quand on a 3, 4, 5 avocats qui disent la même chose, voilà. Et donc celle-là m'a dit non, on va déjà poser une convention de garde qui a été plus ou moins respectée pendant 2 ans.
Okay.
Donc déjà, ça m'a permis de souffler là-dessus et de pouvoir me concentrer sur d'autres choses, notamment les échanges d'écriture, puisqu'il y a eu des mémoires contre mémoires, etc. Où elle essayait de prouver que je n'étais pas le père, que je l'aurais su depuis le début, que de toute façon j'étais stérile, que on ne guérit pas de stérilité. On peut être fertile, on peut avoir des problèmes de fertilité, mais quand même avoir un enfant. Mmh. Mais la stérilité est définitive. Mmh. Donc voilà. Elle a essayé, bon voilà. Donc on est tombé dans des bassesses sur lesquelles je vais pas revenir, qui étaient à chaque fois douloureuses, des messages aussi compliqués. Ce qui m'a fait mal, c'est que je mettais tellement d'énergie dans ma reconstruction mentale et essayer de ma reconstruction juridique, enfin d'essayer de me dépatouiller avec tout ça aussi. Que fallait encore trouver de l'énergie pour avoir du plaisir à être avec lui. Mmh. Voilà. Enfin, j'en ai toujours d'être avec lui. Mais quand c'est un enfant de 1 an et demi, 2 ans, ben, on s'en occupe. Enfin, il faut être extrêmement présent, faut être là. Je suis j'ai une tendance à être hyperactif, à toujours vouloir faire des choses avec lui, donc tout le temps aller à la piscine, faire du vélo, aller au cinéma, faire des expos, et on enchaînait des trucs, 3-4 trucs dans la journée. Enfin, je voulais tout le temps faire des trucs avec lui. Enfin, c'est tout simplement par plaisir, parce que c'est comme ça. Enfin, voilà. Monter les dossiers aussi en parallèle, les mémoires en défense. Donc voilà. Devoir aller demander des attestations à la famille et aux amis, des témoignages, voilà. Donc j'ai pu avoir une centaine de témoignages, de pièces, de justificatifs, etc. pour montrer, parce qu'il faut que je prouve que je suis présent dans la vie de mon fils. Enfin, c'est très très étonnant. Il faut que je prouve que je m'occupe de lui. Donc bon, voilà. Et s'il y a un petit côté,
t'aurais pu lancer une chaîne YouTube de papa, quoi.
J'aurais pu.
Aujourd'hui, on se retrouve, petit vlog avec le fiston. On va aller à la
j'aurais
piscine
pu,
ensemble.
Mais justement, il y a un truc qui est très gênant là-dedans, c'est que ma relation avec lui, elle est de l'ordre de l'intime, et c'est des choses qui me semblent naturelles, et j'ai pas envie d'aller voir des amis, leur demander, ou de la famille. Ah, ils l'ont tous fait avec plaisir, et j'ai pas eu de souci là-dessus, parce qu'ils ont que témoigné de choses vraies, forcément. On ne témoigne que de choses vraies, mais il y a un côté gênant à devoir leur demander, est-ce que tu peux écrire ça, ce qu'on a fait la semaine dernière, ou il y a un mois, ça s'est bien passé.
Et j'imagine que c'est un peu absurde, quoi, parce que...
Bah, évidemment. Voilà. Donc, mais il faut passer par là. Voilà. Retrouver les vieux mails, les échanges de mails, les...
Et puis c'est replongé dans le passé en plus.
C'est replongé dans le passé, c'est à chaque fois que je reçois, parce qu'il y a eu beaucoup de mémoire contre mémoire, se demander qu'est-ce qu'elle va sortir encore, qu'est-ce qu'elle va... On est allé dans des choses assez pas belles, quoi. Enfin, malheureusement pas belles, parce qu'elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite.
Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ok, en fait... En fait, ça va pas être une vie, à la fois pour toi, mais aussi pour ton fiston, quoi, parce que j'imagine que lui, ça doit l'impacter, d'une manière ou d'une autre.
Bien sûr.
Je t'imagine au fond du seau, prendre un courrier dans la gueule, alors que t'es avec lui, enfin, ça doit être quelque chose. Tu t'es jamais dit, ok, coupons là, tu vois, juste un peu comme ce que tes avocats te disaient, genre... En fait, il vaut mieux couper le bras qui est en train de gangréner, quoi, tu vois.
Alors, je sais pas si on peut parler de gangrène.
Non, tu sens que c'est un truc qui va être compliqué à gérer, qui va même pourrir potentiellement et tout, enfin, tu vois.
Mais évidemment que c'est compliqué. Mais c'est l'évidence.
Ouais.
C'est l'évidence. Enfin, je veux dire, j'aime mon fils, c'est évident.
Ouais.
Je veux dire, on peut pas. Et c'est ça, le fond du problème, c'est que je l'aime. Si je l'aimais pas, ce serait effectivement beaucoup plus simple. On m'a raconté d'autres histoires comme ça où le gars dit ok, ben c'est pas mon fils, je m'en vais, je passe à autre chose et c'est réglé. Oui, sauf que ben je l'aime.
C'était pas ton.
C'est comme ça. C'est je me retrouve à devoir l'expliquer. Voilà, c'est juste. C'est une relation qui est tellement évidente, donc je me sentais pas de revenir sur l'évidence. C'est ça, je me sentais pas de revenir sur l'évidence.
Et quand tu expliques ça à sa mère, parce que j'imagine que t'as dû lui dire,
oui,
qu'elle a dû le voir.
Bah, mais évidemment.
Elle se dit pas, ok, c'est cool pour lui, pour le môme, d'avoir quelqu'un qui soit aimant autour de lui, quoi.
Ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse. C'est-à-dire que elle est devenue, au début, c'était silence radio. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir d'explication sur quoi que ce soit. Pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et encore maintenant, je n'ai aucune explication.
Okay.
Aucune explication. J'ai toujours eu envie de discuter avec le géniteur, de prendre le temps. On va prendre un café, on va dans n'importe où, on discute, etc. Comme des gens.
Des êtres humains.
Des êtres humains, exactement. Jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse, ou des fins de non-recevoir. Non, ça ne me regarde pas. Je ne veux pas m'impliquer là-dedans. Ce n'est pas mon problème, je ne rentre pas là-dedans. Alors qu'évidemment, il s'est introduit dans l'équation, si on peut dire. Donc, et finalement, ce qui était du silence s'est transformé en haine. En véritable haine de la part de la mère, hein, pas de la part de lui, puisque lui, j'ai jamais eu affaire à lui, et voilà. Mais de sa part à elle, c'est devenu, avec le temps, une véritable haine envers moi.
Parce que tu te battais ?
Oui.
C'est ça ?
Oui. Je pense que c'est pour ça, elle m'a jamais dit, hein, voilà, mais une haine, ce qui fait que depuis quelques années, depuis 3 ans et demi, la dernière fois, c'était le meilleur papa du monde, et depuis son retour, là, ce n'est que des critiques, des méchancetés, des coups bas, un truc en plus à gérer, quoi. Et une situation qui est compliquée. Je pense qu'elle a vu que le lien entre mon fils et moi était fort et qu'elle n'avait pas prise dessus. Voilà. Elle a vu qu'elle n'avait pas prise sur ce lien-là et son objectif est de détruire ce lien. D'ailleurs, la contestation de paternité n'est qu'un moyen d'atteindre ce but. Parce qu'elle me l'a écrit très clairement au début, je compte récupérer la garde de cet enfant et de mon enfant. C'est mon fils, je veux récupérer la garde, c'est pour ça que je fais une contestation de paternité. C'est pas l'inverse. C'est pas, je conteste pour qu'il le sache, pour remettre les choses en place, puis ensuite on voit comment on s'organise. C'est non, à la base, je refuse que tu le vois, je mets en œuvre tous les moyens, et parmi ces moyens-là, il y a aussi la contestation. Voilà.
Et donc depuis 2 ans et demi, 3 ans qu'on s'est vus, t'en es où alors maintenant ?
Alors, il y a eu les échanges d'un point de vue juridique.
C'est toujours en cours cette
non
cette
non. Alors oui et non. Donc il y a eu beaucoup d'échanges de mémoire, mémoire contre mémoire, etc. Qui ont duré assez longtemps. Il y a eu le test ADN que j'ai dû faire. Qui était dur à faire forcément. Je connais. C'est comme ça.
Qu'est-ce que t'allais dire ?
Je suis. C'est quelque chose que je redoutais. Quelque chose que je redoutais énormément.
Oui, tu veux dire que, en gros, le test ADN a confirmé que tu n'étais pas le géniteur.
C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, j'ai beaucoup procrastiné. J'arrivais pas à le faire. Finalement, je l'ai fait au dernier moment parce qu'il était important que je le fasse. Je ne l'aurais pas fait.
Pour toi, non ? Pour un peu avoir une forme de vérité par rapport à toute cette histoire et que tu saches un peu où te positionner.
Oui, complètement. Et puis vis-à-vis de la justice aussi. Si je l'avais pas fait, ça aurait été un aveu que ce serait un élément de soupçon plus important. De toute façon, comme le géniteur a aussi fait le test, voilà, vaut mieux affronter les choses en face plutôt que de les laisser faire. Voilà. Donc je l'ai fait quand même. J'ai le résultat. Notre enfant était au courant. Ce qu'il m'a raconté, qu'il a fait le test de la salive, etc. Il a dit, on a pris ta salive, maman me dit que tu n'es pas mon papa, parce qu'on a pris ma salive, on a pris la tienne, on a vu que ça correspondait pas. Puis on a pris ma salive et celle d'un, on a vu que ça correspondait, donc tu n'es pas mon papa. Ce à quoi je lui ai répondu, c'est vrai, on n'a pas la même salive, est-ce que ça change quelque chose pour toi ? Il me fait, non, ben voilà, c'est tout, passe à autre chose. Oui, maman me dit que tu n'es pas mon papa parce que tu n'étais pas là quand elle faisait des câlins, des bisous à l'autre. Je dis, ben oui, c'est normal parce que j'étais en train de te garder à l'époque. Donc, voilà, c'est quelque chose. Lui, il est au courant, il est parfaitement au courant. Il n'y a pas de souci là-dessus et j'ai jamais voulu le lui cacher. Ça me semble, ça fait partie de ton histoire, c'est comme ça. Par contre, ce qui... Donc, je finis sur l'aspect juridique. Il y a eu le procès s'est tenu en décembre dernier, en novembre dernier, autant pour moi. À cause du Covid, il n'y a pas eu d'audience physique, ce qui est quelque chose que j'ai beaucoup regretté, parce que depuis le début, il n'y a eu que des échanges de dossiers. Et je n'ai jamais vraiment vu le géniteur. J'ai jamais eu l'occasion de discuter avec le géniteur. Je pensais que ça allait être une occasion de parler avec lui. Et ce moment important de la justice qui est de on pose les choses, on se parle et on résout les choses n'a pas eu lieu. Voilà. Et ça, je le regrette. Je le regrette beaucoup. Donc ça, c'était en novembre dernier. Je devais le récupérer ensuite le 25 décembre pour la deuxième moitié des vacances. Je devais le récupérer donc le samedi, 17h, on devait descendre, passer la Noël en famille, et j'avais la valise, j'avais les cadeaux et
tout
ça.
Parce qu'en fait, le procès, enfin le verdict, c'est terminé, t'es plus...
Alors le verdict n'avait pas encore eu lieu.
Ah pardon, ok.
Voilà, il y a eu le procès,
okay.
Il y avait un délibéré, il fallait attendre le verdict.
Ok, voilà. Donc pendant ce temps-là... Ta convention de garde,
elle continue à courir, etc. Il n'y a pas eu de souci.
D'accord.
Et 25 décembre, je devais descendre avec le petit à voir avec la famille. J'avais tous les cadeaux dans la valise. À 17h, on devait prendre le train. Et à 13h, elle m'envoie un message. Elle me dit, on est parti à l'étranger. On sera pas de retour au moins avant la rentrée. Donc voilà, tu le vois pas. Voilà, c'est comme ça. Donc le jour de Noël, voilà, toute la famille l'attendait. On avait le sapin à décorer le lendemain. On avait et tous les cadeaux. Enfin, on avait passé un Noël heureux, quoi, tout simplement. Donc j'ai passé une semaine un petit peu difficile.
L'euphémisme.
Voilà. Bon, c'est comme ça. Après, il vient la rentrée. Il reprend pas l'école. Et je n'avais aucun élément. Hein. Je ne savais pas où il était. Et elle me disait, on est parti à l'étranger. Je ne savais pas où. J'avais des soupçons, des idées, qui se sont révélées être fausses après coup. Mais bon, je n'avais aucun élément. Elle m'a dit, on est parti à l'étranger et on ne répondra à aucun de tes messages. Voilà. Et je m'oppose à ce que tu le vois. Bon. Donc, j'ai contacté l'association d'enlèvement parental. Parce qu'il n'est pas rentré à la rentrée, puis après pendant plusieurs semaines toujours rien, hein, c'est aucune nouvelle, pas son, pas d'image, aucune nouvelle du petit, rien. Avec toujours les cadeaux dans ma chambre chez moi, enfin les vêtements, les cadeaux, et là je me dis quand est-ce que je vais le revoir, est-ce que je peux faire un deuil ou pas? Est-ce qu'il est ou pas? Je commence à chercher, mais chercher par où? Je consulte les amis, les avocats, la police. Évidemment, je suis allé porter plainte le jour de Noël. Puis ensuite, à chaque fois que je devais le récupérer, ça durait plusieurs semaines. Et finalement, il a repris l'école. Parce que le verdict était tombé. Voilà. Donc le verdict qui est tombé, c'est que le juge reconnaît le lien entre mon fils et moi, que j'ai toujours pensé que c'était mon enfant. Donc cette histoire de je le savais depuis le début, non, ça a été reconnu comme faux, que il fallait qu'on respecte le lien que j'ai avec lui. À part, on a remis, voilà, la convention, le rythme de garde a été considérablement revu quand même. Même si on me qualifie de père social, entre guillemets, je passe à un week-end par mois.
Ok.
Un week-end par mois. Et une semaine à Noël, une semaine pour les vacances de printemps et une semaine pour les grandes vacances. Donc ça fait très très
pas
peu.
Beaucoup.
Ça fait très 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 peu. Ça fait très peu, mais pour elle ça fait beaucoup trop.
Voilà. Donc elle a pas gagné dans sa tête.
Ah, dans sa tête elle n'a pas gagné. Donc quand elle est rentrée, le petit est allé retourner à l'école. Moi j'ai eu un soulagement de dingue de savoir qu'en fait ils étaient pas partis. Moi je pensais qu'ils étaient partis, qu'ils avaient franchi l'Atlantique. J'avais des éléments, c'était pas du tout ça, mais en l'absence d'éléments, on pense, on se raccroche à ce qu'on peut. Elle s'est battue pour que la convention s'applique immédiatement. Elle s'est battue pour que la convention s'applique immédiatement. Elle a réussi à le faire. Et puis toujours cette haine, cette insulte. Enfin voilà, elle a appelé ma mère pour lui dire qu'elle allait faire appel parce qu'elle voulait que ma mère ne voie plus son petit-fils. Vraiment une volonté d'en découdre. J'étais élu de parent d'élève.
Ah ouais.
Depuis la première année de maternelle. Parce que pour moi, comme il était à l'école dans une école qui était un peu loin de chez moi, c'était une façon pour moi de m'intéresser un peu à son environnement scolaire, de comprendre un peu comment ça fonctionne, de m'intéresser, de m'investir là-dedans. Et à partir du moment où il y a eu la, enfin, que j'ai perdu l'autorité parentale, elle a demandé à ce que je sois exclu du conseil d'école. Donc ça, ça a eu lieu hier, en fait. Hier, c'est tout frais. Donc elle ne lâche rien. Toujours, voilà, une véritable colère, une véritable haine envers moi.
Et tu sais toujours pas pourquoi. Elle t'en a jamais vraiment parlé.
Je pense que c'est mon. Ah non, elle, de toute façon, elle, le dialogue est rompu depuis longtemps. Absolument impossible. Mmh. C'est des insultes par oral devant le petit. Elle m'a déjà insulté devant lui, dans la rue. Traité de connard. Bon, voilà. Par écrit aussi aux avocats. Où elle m'insulte moi devant les avocats, aucun souci là-dessus pour elle. Et toujours tout ce que je peux faire est forcément.
De quel âge ton fils ?
Maintenant, il a 5 ans.
Il va commencer à comprendre.
Ah oui, mais il a compris déjà beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est étonnant de voir à quel point il est structuré. C'est clair dans sa tête. À 3 ans déjà, je me souviens, on était en train de déjeuner et il dit : Papa, c'est vrai que tu vas disparaître ? Je pensais qu'il parlait de la mort. Mmh. Donc je lui ai dit, bah oui, comme tout le monde, mais pas tout de suite. Enfin, ça va arriver plus tard.
Ce n'est pas la bonne question.
Voilà. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas ça. Ouais. Je dis, comment ça ? Parce qu'on était avec d'autres personnes. J'ai dit, comment ça ? Oui, parce que maman m'a dit que pour l'instant j'avais deux papas, mais qu'un jour j'en aurais plus qu'un et que tu vas disparaître. Je dis, toi, tu as envie que je disparaisse ? Il me dit, bah non, j'en ai pas envie. Bah moi non plus. Donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais en même temps, à chaque fois que je le vois, ben, je suis obligé d'en parler avec lui.
Tu racontes ça comme si c'était banal, mais j'imagine que toi, à chaque fois, c'est...
C'est dur, ouais.
C'est un coup de poignard dans le cœur.
Oui, c'est ouais. Dur, ouais. Mais on se blinde avec le temps. Enfin, je veux dire, il y a tellement... Ça fait 4 ans que ça dure, cette histoire. Au bout de 4 ans, on commence à... J'ai avalé tellement de couleuvres que... Voilà. Et ce qui est dur, en fait, c'est de pouvoir mettre tout ça dans une petite boîte. Et de temps en temps, faut mettre de l'ordre, faut refermer la boîte et faut savoir aussi faire autre chose à côté. Voilà. Et quand je me concentre avec mon fils, sur le temps que je passe avec mon fils, il faut que je sois pleinement avec lui et j'ai du mal parfois à pas être dans la peur de, puisque c'est ce qu'elle veut, hein, de ce qu'on soit séparés, ce qui est déjà arrivé à Noël dernier où on devait se voir, on s'est pas vu et pendant plusieurs semaines on ne s'est pas vu et voilà. Et ça, il faut essayer de vivre avec ça. Lui, il me dit, mais on sera jamais séparés, on n'arrivera jamais à être séparés. Voilà. Et encore une fois, je lui dis très clairement que c'est pas, je ne suis pas fâché contre sa mère. C'est pas le but. Enfin, je veux juste qu'on me fiche la paix. Je veux juste qu'on me fiche la paix avec dans mon amour pour cet enfant, le voir grandir. Enfin, je veux dire, Je suis fier de lui. Il illumine mes journées. Il est cool, il est rigolo, on se marre bien. Voilà, on fait plein de choses ensemble. En même temps, bon, je suis un petit peu, je peux être un petit peu difficile, un petit peu strict, mais parce que j'ai pas envie non plus de, enfin, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et puis voilà, je suis assez strict sur les choix qu'il fait. S'il fait un choix, il va jusqu'au bout. L'armer comme je peux. J'essaie de l'armer comme je peux et lui parler de temps en temps peut-être d'un jour où je ne le verrai plus. C'est compliqué, mais il faut qu'on en parle aussi. Et en tout cas, il sait que si on ne se voit plus, parce que pendant un mois, on a été séparés et où j'ai cru que j'allais vraiment, vraiment le perdre physiquement, voilà, que j'allais plus pouvoir avoir de contact avec lui. Faut qu'on se prépare à ça et je veux qu'il sache que ça vient pas de moi. Que moi, je veux être là. Je veux pas l'empêcher de voir sa mère. Je veux pas l'empêcher de voir son géniteur. C'est pas le but. Enfin, j'en ai ni les moyens, ni la volonté, ni l'intérêt. Donc, pour moi, ça me va bien. Je veux juste qu'on me fiche la paix. De pouvoir vivre avec lui, le voir grandir, m'occuper de lui, l'aimer. Qu'il ait des frères et des sœurs et puis voilà quoi, c'est ça me semble tellement tellement simple et tellement évident Maintenant qu'il a 5 ans, qu'il conscientise un peu tout ça, où les choses, je pense, ont toujours été claires pour lui, mais qu'il en a quand même beaucoup plus conscience, je me rends compte que il faut que je lui fasse confiance. Tout simplement. Tout simplement, il faut que je lui fasse confiance.
C'est ce que j'allais
dire. Ouais. Je lui fais confiance. Je ne peux pas ne pas lui faire confiance. Un, c'est pas comme ça que j'ai essayé de l'élever. C'est-à-dire que si on se tombe, on se relève. Et si on tombe encore, on se relève encore. Et si on a tombé une troisième fois, on va se relever une troisième fois et il faut continuer. Je lui ai toujours dit ça. Je lui ai dit, tu peux faire du vélo à une condition, si tu tombes de vélo, tu remontes sur le vélo. C'est la seule condition que je pose. Et il est au clair avec ça. Et quand il tombe à vélo et qu'il se blesse, il remonte sur le vélo, il continue. Et pour moi, c'est extrêmement important. Donc, je peux pas, moi, de mon côté, le laisser tomber. Voilà. Et puis, il faut lui faire confiance. J'allais dire,
il faut faire confiance au lien qui vous unit, quoi.
Tout à fait.
Et puis, surtout, j'imagine à quel point c'est dur pour toi. Je dis ça comme si c'était normal, mais à quel point, il t'appartient pas, tu vois.
C'est ça.
Et puis en fait, c'est un très bon entraînement ou c'est un très bon truc de. Ok, en fait, à un moment donné, il va devenir adulte et en fait, c'est un être humain à part entière. Quoi.
Exactement.
C'est dur à conscientiser en tant que jeune parent.
Tout à fait. Et c'est dur et en même temps, ça oblige à faire confiance et à se dire. Alors, ce n'est pas une relation égalitaire. Parce que c'est une relation de nature filiale. Donc ça ne peut pas être égalitaire et c'est normal et voilà. Mais c'est une relation qui est bilatérale. Et avec un objet, on n'a pas de relation bilatérale. On aime un objet, on le veut, on peut le casser, on peut faire ce qu'on veut. Mais avec un enfant, non. Lui a son mot à dire. Et c'est une interaction. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort. Et on a nos moments de complicité, il y a les choses qu'il aime, qu'il aime moins, et on se fâche, c'est normal de se fâcher, et puis on se réconcilie, et puis on joue ensemble, et puis on fait du vélo, on fait plein de choses, et puis c'est chouette, quoi. C'est chouette. Et puis j'essaye de lui transmettre ce que je peux lui transmettre, et puis voilà.
T'en étais pas du tout là quand on s'était vu la première fois.
Ah non, non, j'en étais pas du tout là.
Bravo pour ça déjà, pour ce chemin que t'as parcouru. Mais en fait, je me disais aussi...
C'est grâce à lui.
Non, c'est aussi grâce à toi.
C'est grâce à lui.
Ok, si tu veux.
Et à cause de lui aussi.
Oui, c'est ce que j'allais... En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est t'as réussi à trouver quelqu'un avec qui tu pourrais faire un enfant, un de ces quatre, dans des conditions un peu plus normales, entre guillemets, quoi. C'est dur ça pour toi aussi aujourd'hui?
Ouais, c'est dur. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un, mais on verra. J'ai beaucoup de choses encore à gérer. Je m'en suis sorti de pas mal de choses.
Ça te fait peur d'y retourner?
Ouais, un petit peu. Et en même temps, j'ai envie. Hein.
Oui.
Mais ça fait peur, ouais.
Je comprendrai, hein.
Voilà, ça fait un petit peu peur et en même temps c'est la vie, c'est aussi ce que lui demande. On verra bien.
Ce que lui demande, c'est-à-dire,
il va avoir des frères et des sœurs, c'est clair. Il va en avoir, donc voilà. Après, ce qui est très très intéressant et
faut que tu les fasses pour toi, ces enfants.
Oui,
pas,
évidemment,
pas pour
évidemment,
lui.
Évidemment. Je les fais pas pour.
Je peux permettre de le préciser.
Mais tu as tout à fait raison. Mais c'est bien pour ça que voilà, on a le temps encore un peu de voir. Mais non, parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit. Refais ta vie, fais des enfants, prouve-lui. Non, je n'ai rien à prouver à personne, si ce n'est à lui, quand même un petit peu. Si je fais un gamin, c'est parce que je sens que c'est le bon moment, je sens que c'est la bonne personne. En la matière, j'ai le nez creux.
Mais tu doutes un peu de toi?
Je doute un peu de moi, je doute de moi.
C'était ironique.
Ah, c'était ironique, oui.
Oui, d'accord, ok.
C'était ironique. Non, en même temps, ça échaude beaucoup, hein.
Mais j'ai, oui.
Ça échaude beaucoup.
Sais. Enfin,
ça échaude beaucoup.
J'imagine.
Et c'est, voilà. Et encore une fois, si elle avait, m'avait dit tu, bon, tu n'es pas le géniteur, mais on le laisse comme ça, il n'y a pas de souci, et pour moi, il n'y aurait eu aucun problème, absolument aucun problème. Et aucun problème pour que lui puisse le voir aussi.
Bien sûr.
Enfin, ça fait partie de sa vie, ce serait lui mentir que de. Et j'ai pas le droit de lui mentir là-dessus. Donc voilà. Après, on, par rapport aux enfants, on ne refait pas sa vie, on n'a qu'une vie, on la continue. Mais il faut, enfin voilà, il y a encore des choses à remettre en place. Voilà. Je, par rapport aux procédures, elle fait appel.
Donc c'est pas terminé.
Donc c'est pas terminé. Elle considère que c'est beaucoup trop. Un week-end par mois, c'est beaucoup trop. Je fais appel aussi. Parce que je peux pas me contenter d'un week-end.
Tu veux
par
plus?
Mois. Je voudrais plus, ouais. Je voudrais plus. Je voudrais plus. Alors mon avocate m'a dit oui, il faut aussi lui prouver que vous avez tout mis en œuvre pour. Certes, mais moi j'ai surtout besoin de passer plus de temps avec lui. Mmh. Voilà. J'ai besoin de passer plus de temps avec lui. Et encore une fois, c'est pas mon objet, c'est pas. Voilà, il a le droit, il a le besoin de voir sa mère, il a le droit de voir son géniteur. Je suis pas dans une situation de jalousie parce que sinon je me serais auto-consommé depuis très longtemps. Donc je ne suis pas de, j'ai pas de jalousie, j'ai pas de pas tout ça. J'ai juste envie de qu'on me fiche la paix, de pouvoir aimer paisiblement mon fils. Mmh. Je ne veux rien lui cacher, je ne veux rien lui. Je veux juste qu'on me fiche la paix, c'est tout. Pouvoir le prendre dans mes bras, pouvoir lui dire que je l'aime, l'embrasser et puis faire un jeu de société avec lui. Mmh. Voilà, tout simplement. Ou lui dire une histoire.
Pourquoi t'es venu deux fois raconter ta... Et tu sais, c'est marrant parce que j'ai réécouté et à la fin, j'ai dit, je te donne rendez-vous dans deux ans parce que j'étais convaincu qu'on allait sortir les pistes. Genre, pour faire la suite. Donc c'est très marrant. Pourquoi t'es venu raconter? Pourquoi t'as voulu venir raconter?
Parce que c'est la continuation du premier. Le premier, j'étais... Effectivement, c'était plus sombre, plus difficile, plus... Ces choses n'étaient pas ordonnées dans ma tête. Elles étaient un peu... Voilà. Bon. Maintenant, les choses sont plus claires. Je me suis fait le cuir, un petit peu plus le cuir. Lui s'exprime, donc il conscientise. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Et j'ai envie de... Voilà, je sais qu'on va se revoir une troisième fois, forcément. Ah bah oui.
Faire la suite.
Ah bah évidemment, évidemment. Parce que c'est une histoire qui est longue, qui est complexe, qui est longue, qui est complexe parce que c'est comme ça, et qui est compliquée parce que sa mère a voulu que ce soit compliqué. Alors qu'il y aurait tous les ingrédients, même si c'est complexe, pour qu'on puisse vivre avec cette complexité et que et ça puisse le faire. Elle le refuse. Bon, bah c'est comme ça. Et je veux qu'il sache que je l'aime aussi.
Je crois que je ne te l'ai pas posé la question la première fois, parce qu'on avait déjà été un peu long, mais tu sais, il y a une question que je pose à tous mes invités. Si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 15 ans, il sera adolescent. Il aura les cheveux longs et tout, wesh.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as envie de lui dire?
Que c'est j'aime casse.
T'as dit quoi?
Que c'est j'aime casse. Il aura compris.
Ok, code secret, très bien. Ça, je crois que c'est la première fois. Sans épisode, je crois que c'est la première fois qu'il y a un daron qui me la joue, code voilà. Secret. Waouh! Ok. Merci beaucoup.
Je te remercie.
C'était super.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.